Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère. C'est le balado du Jardin des Funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. Hey, salut la gang! Bienvenue à cet épisode du mois de septembre. Donc, pour cet épisode-ci, j'ai eu l'honneur de recevoir Annie-Claude et Justine de La Fermette. On a dressé un peu un portrait de leur parcours, de leur démarrage, de leur mise en marché, puis de leur analyse, où est-ce qu'ils en sont après leurs premières années de production. Donc, elles, essentiellement, elles ont fait des études connexes à l'environnement, puis après, elles ont travaillé dans des fermes périurbaines proches de Montréal, et elles ont travaillé par la suite 2 ans à la ferme des Quatre-Temps. Puis à la fin de leur parcours à la ferme des Quatre-Temps, elles ont eu une proposition, en fait, de la part de la buvette chez Simone et du café Le Parvis. Qui sont deux restaurateurs, des restaurateurs en fait qui leur ont offert de faire une forme de partenariat. Donc on a parlé de ça un petit peu plus amplement parce que c'est une forme de mise en marché quand même vraiment originale puis qui enlève une forme de pression quant à où est-ce qu'on va écouler une partie de la marchandise, ce qui est quand même un gros stress en démarrage. Puis elles ont eu la chance en fait de s'éviter ce stress-là. Par contre, c'est ça, elles ont eu d'autres stress en fait, des défis particulièrement liés à l'empressement qu'elles avaient à démarrer, puis on explore ça un petit peu ensemble. Alors, avant de commencer, évidemment, je souhaite remercier les partenaires du balado. Il y a Dubois Agrinovation qui est mon partenaire principal dans le cadre du projet. Je veux remercier également Climax Conseil qui sont nos indispensables conseillers en serre et également des partenaires du projet. Donc, merci à eux pour leur soutien sur la ferme et dans le projet. Et finalement, je souhaite remercier les équipements de Civierge qui nous fournissent une grosse partie de nos outils sur la ferme et qui, grâce à ces outils, là, nous sauve beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc, merci à eux d'être partenaires du projet et de nous offrir d'aussi bons outils. Donc, je vous laisse écouter l'épisode sans plus attendre. Merci d'être là. Merci de me prêter vos oreilles. Allô, les filles?
Allô!
Merci d'être là avec moi. Merci de participer à l'émission.
Bien, merci de l'invitation. On est vraiment contents d'être là.
Ça me fait plaisir. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parle de ce qui vous a apporté à l'agriculture, ce qui vous a amené à faire le métier que vous faites aujourd'hui. J'aimerais ça savoir c'était quoi vos motivations initiales, puis savoir un peu l'évolution de votre motivation. Maintenant, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça a complètement changé ou c'est la même chose qui garde la passion active en vous?
Mais je dirais pas que ça a changé du tout au tout, mais je pense que les motivations ont réellement vraiment évolué, là. Si je me reporte à avant d'avoir démarré, puis même avant d'avoir travaillé dans des fermes, je pense qu'il y avait comme une implication plus politique ou même philosophique derrière la recherche de se rapprocher de la nature, de la production, de la nourriture aussi. Puis au fil de mes expériences, moi, je me suis vraiment intéressée à ça en tant que métier aussi, aux techniques de production, tout ça. Puis maintenant qu'on a une entreprise, on a aussi tout un attrait plus entrepreneurial qui s'est développé. En tout cas, c'est une des composantes qui devient très, très motivante. Mais c'est sûr que le cheminement est... En fait, les motivations ont vraiment changé pour moi au fil du temps.
Nous, on habitait à Montréal, Justine et moi, puis on n'était pas nécessairement prédestinés à devenir agriculteur. On n'a jamais étudié là-dedans. On n'a personne dans notre entourage non plus qui était comme un modèle ou qui aurait pu nous inspirer d'aller dans cette voie-là. Puis ce qui nous a vraiment menés là, en fait, c'est l'agriculture urbaine, c'est qu'on était en ville, puis on a eu le goût de s'impliquer dans des projets pour verdir la ville, pour créer des lieux communs où on posait une action sur notre environnement, finalement.
Mm-hmm. Puis j'imagine que d'expérience en expérience, la relation qu'on a avec nos motivations évolue. D'ailleurs, les gens vous ont connu quand vous étiez à la ferme des Quatre-Temps à cause de l'émission Les Fermiers. J'aimerais ça savoir c'est quoi les responsabilités que vous aviez à ce moment-là? C'était quoi les postes que vous occupiez à la ferme?
Bien, la première année où on filmait à la ferme des Quatre-Temps, donc moi, je m'occupais des implantations au champ. Justine, elle était à la pépinière.
Alors, vous aviez quand même des bonnes responsabilités, là.
qu'est-ce qui, selon vous, entre le rôle d'employé et le rôle d'entrepreneur, et qu'est-ce qui se différencie entre ces deux rôles-là? C'est quand même deux rôles, oui, qui sont assez différents, là, mais jusqu'à quel point est-ce qu'un employé qui est responsable quand même, qui a une bonne charge de responsabilité, puis un entrepreneur, jusqu'à quel point c'est différent à vos yeux, ce que vous avez vécu?
Ben, tu dors mieux quand t'es employé.
Ça, c'est sûr.
Mais non, c'est vrai, il y a vraiment une grosse différence, en fait, entre être employé ou entrepreneur. C'est ça, la charge mentale est différente. Quand t'es employé, t'as tes responsabilités, t'as un mandat, sauf que t'as pas la globalité, si on veut, de l'entreprise sur les épaules. Tandis que quand tu démarres, c'est sûr que cette responsabilité-là est partagée avec les différents partenaires de l'entreprise, mais reste que beaucoup de choses reposent sur nous, dans le fond. Puis aussi, quand il y a des problèmes, quand on fait face à des défis, ben c'est ça, là, c'est vraiment à nous là, de relever, c'est à nous que ça revient. On est en première ligne là, en tout temps. Tandis que quand t'es employé, tu fais partie des fois du processus de face aux problèmes, mais on dirait que t'as pas la même charge, tu sais.
Mais c'est ça, si je me remémore un peu mes premières expériences sur des fermes, puis aux quatre temps aussi, je trouve que je pouvais profiter plus comme simplement du plaisir de juste faire de l'agriculture sans me casser la tête avec tout ce qui est derrière, toutes les questions financières, se projeter dans le temps, avoir une entreprise viable, tout ça, c'est vraiment des choses qui viennent avec le fait de démarrer sa propre ferme. Puis je pense que quand... Ben, il y a plusieurs employés agricoles dont le rêve, c'est de démarrer leur propre ferme. Puis je pense que quand tu es dans cette position-là d'employé, tu réalises peut-être pas encore l'ampleur de ce que ça va être. Je regrette pas du tout. T'sais, on avait toutes les deux vraiment envie d'avoir notre propre projet parce qu'on voulait donner notre vision puis faire nos choix. Puis c'est vraiment ça aussi qui nous intéressait. Mais je pense que c'est quand même une courbe d'apprentissage vraiment à pic, à monter, disons. Puis ça vient... Avec beaucoup de stress, je trouve que c'est les stress qu'on n'avait pas quand on était employé dans des fermes. Même si ça peut être un travail très exigeant où il faut être très, très dédié, très engagé, tout ça, c'est vraiment différent.
Est-ce que ça a particulièrement un lien avec le poids financier? Est-ce que c'est ça principalement que vous trouvez qui était comme un poids supplémentaire ou c'est aussi, disons, la gestion de l'horaire, par exemple? Parce que quand on est employé, l'air de rien, c'est un horaire qui est quand même plus encadré.
Bien, dans notre type de démarrage rapide, il y avait quand même la notion financière était quand même là, tu sais, dans le sens qu'on se donnait la première année pour pas être nécessairement rentable, mais dès la deuxième année, il fallait qu'on réussisse à être rentable pour pouvoir poursuivre de la manière dont on voulait poursuivre. C'est sûr qu'on aurait pu trouver là, toujours moyen de se débrouiller, mais on avait quand même cette pression-là de vouloir rentabiliser et en vivre rapidement, de pas nécessairement devoir se retrouver un deuxième emploi quand t'es hyper fatigué à la fin d'une saison, là, faut que t'ailles faire n'importe quoi un peu pour gagner un peu plus d'argent. On voulait essayer le plus vite possible de pas être pris dans ce cercle-là. Donc, c'est ça. Dans le modèle qu'on s'est donné, il était quand même ambitieux, fait que ça venait avec quand même la pression financière. Pas juste ça, évidemment, là, il y a d'autres stress, mais ça faisait partie d'un des stress. Puis à chaque fois qu'on fait un gros achat d'équipement, de ci, de ça, est-ce que c'est le bon équipement? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de questions qui viennent à chaque fois parce que c'est rare que, tu sais, ça, faut que tu priorises qu'est-ce que tu achètes, faut que tu magasines, faut que tu trouves. Fait qu'il y avait comme, moi, ouais, je dirais que la pression financière, ça a été un gros morceau quand même du stress qu'on a vécu.
C'est comme si tout était nouveau, en fait. Tous les choix qui sont à faire sont des nouveaux choix, c'est un nouveau rôle, ça fait beaucoup d'adaptation d'un coup.
Ben oui, je pense que tu le résumes bien. Tu sais, c'est la première fois que tu fais tout quand tu es en démarrage ou à peu près, parce que même si tu as de l'expérience en agriculture, c'est pas cette expérience-là que tu as eue à magasiner une serre, à te questionner sur le drainage, parce que quand tu arrives puis tu travailles sur une ferme, ces choses-là sont déjà installées, sont déjà réfléchies par... la personne qui est responsable, finalement. Fait que oui, c'est toujours une première fois, puis on se le disait souvent, on est comme « aïe, 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 on n'est pas dans notre zone de confort ». Oui, OK, construire, par exemple, installer un équipement, c'est toujours ardu. C'était pas construire quelque chose, la serre, c'est un bon exemple, des nouvelles machines, tout ça. Fait qu'on a vraiment, appris des nouvelles choses, puis c'est sûr que ça venait avec un... C'est ça, un stress, on peut dire.
Mais tu sais, je me revisualise juste avec, mettons, le plan de la serre, la première fois qu'on l'a reçu, puis le regarder ça, puis après 5 minutes, j'avais mal à la tête. Tu sais, c'est pas comme des documents que je suis habituée de lire, tu sais, un plan. Moi, c'est pas du tout ma zone de confort. C'est pas comme quelque chose que je me dis, je fais ça depuis que je suis petite, puis tu sais... Fait que c'est... Ou même, tu sais, tenir, tu sais, à la limite, certains outils, tout ça. Fait qu'il y avait comme beaucoup d'apprentissage qui nous sortait de ce qu'on était habitué de faire, mais qu'il y avait un autre côté, tu sais, une contrepartie qui était stimulante aussi, tu sais. Ouais. Puis on avait aussi des forces, tu sais. Moi, j'avais fait quand même beaucoup de gestion de projet. Fait que, tu sais, j'avais quand même une bonne capacité à comme mettre en place des échéanciers, prioriser, tu sais, mettre... T'sais, fait que c'est ça aussi, t'sais, on partait pas jamais de zéro, puis on avait aussi la relation avec les restaurants qui était intéressante, parce que eux, en tant que restaurateurs, ben, il y avait déjà des expériences en entrepreneuriat, en lancement d'entreprise, fait qu'on pouvait sentir qu'on avait un certain coaching qui venait de là, qui était vraiment, qui a été important aussi dans notre démarrage, puis, ouais. Puis dans nos choix qu'on a pris aussi.
Et on se gênait pas pour en parler avec notre partenaire, puis être, ben... Tu sais, il faut vraiment avoir cet échange-là, plus comme un mentor aussi qui t'aide par exemple, à poser les éléments quand tu prends une décision ou à voir à long terme ou, tu sais, à poser les questions autrement aussi. Ça nous a vraiment stimulé aussi mm-hmm. d'avoir accès à ça dans le cadre de notre relation avec les restos. Là.
Est-ce que je me trompe ou en démarrage, c'est comme, on a l'impression que chaque choix est comme crucial alors que quelqu'un qui, ça fait par exemple 10, 15 ans, peu importe, qui est en affaires, bon, les choix, ça devient plus routinier en quelque sorte, fait que peut-être qu'ils peuvent t'aider à relativiser, à faire comme, regarde, même si ce serait le mauvais choix, tu leur vendras, tu rajoutes autre chose, mm-hmm. ou tu sais, ça peut t'aider à comme baisser la pression de chaque choix qui semble donc bien crucial. Là.
Ben oui, vraiment. Ça vient aussi faire évacuer de la pression aussi quelqu'un qui a vraiment du recul par rapport à ça. Nous, je pense qu'Éric, qui est en fait impliqué dans les deux restos avec lesquels on travaille de plus près, disons, là, nos partenaires, ben lui, vraiment, tu sais, souvent il est arrivé, puis c'est ça, il pouvait vraiment relativiser un genre de situation qui nous stressait vraiment ou nous faisait paniquer. Ben lui, il pouvait vraiment nous aider à regarder ça dans le temps ou vraiment comme à enlever une certaine pression, là, juste parce qu'il y avait une autre expérience de l'entrepreneuriat.
Vous avez eu la chance d'avoir la collaboration d'entrepreneurs d'expérience déjà avec vous dans le projet. C'est des gens dans le milieu de la restauration. De quelle façon est-ce que votre relation s'est tissée? Puis à ce jour, de quelle façon est-ce que ça c'est encore actif?
Mm-hmm. Bien, c'est ça. Avant de partir de notre projet, on a rencontré l'équipe de deux restaurants montréalais, la Buvette chez Simone et le Café Parvis. Puis après plusieurs rencontres, finalement, on s'est aperçu que nos deux visions concordaient. Tu sais, eux, ils étaient intéressés à partir d'une ferme, mais ils n'avaient pas l'expérience. Nous, on était intéressés à partir d'une ferme, on avait l'expérience, mais on ne voulait pas être tout seul dans l'aventure. Puis on était super contents d'avoir cette opportunité-là de travailler avec des partenaires restaurateurs. Donc on peut dire que depuis le début, ça a vraiment été une relation de collaboration où finalement on a parti notre entreprise ensemble. Tout le monde fait partie de l'aventure, mais si on veut, c'est Justine et moi qui sont vraiment les capitaines du bateau. Donc c'est nous là, qui prenons les décisions qui ont plus attrait vraiment à la ferme.
OK. Donc, à la base, vous aviez déjà bon, des intérêts complémentaires, puis des compétences complémentaires de ce que je comprends. Est-ce que ça serait juste de dire ça?
Je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est que et la Buvette chez Simone et le Café Parvis avaient, les deux restaurants, axaient quand même déjà leur menu sur le légume, mais avaient encore plus le goût de prendre ce tournant-là. Donc, à s'associer aussi avec nous pour partir le projet de la Fermaine, il y avait cet esprit-là, justement, où on donnait une place vraiment importante aux légumes dans l'assiette. Puis, en plus, on savait qu'ils étaient produits, on connaît la provenance. C'est ça, fait que c'est une manière pour nous de les approvisionner avec des produits frais, de qualité. Puis, il y avait cette espèce de relation-là unique qui était comme vraiment intéressante.
OK. Fait qu'on peut dire que c'est une relation gagnante-gagnante. C'est une entente win-win. Là.
Jusqu'à maintenant, oui. Non. Mais on espère que ça va... Oui, je pense que vraiment, les deux, on est gagnants là-dedans, tu sais, puis on aime ça. C'est comme partager un projet, finalement, puis juste, par exemple, depuis l'année dernière, on a un petit pop-up à côté de la Buvette chez Simone où on vient vendre des légumes, puis c'est quand même cool le lien que ça crée entre notre équipe et l'équipe de la Buvette, de nous voir à chaque semaine, puis d'avoir aussi les clients qui sont sur la terrasse à côté, qui mangent nos légumes qu'on est en train de vendre à côté. Il y a comme une imbrication qui est super enrichissante pour les deux parties, je crois.
On participait à la création de la terrasse qui était finalement vraiment sous le thème du potager comestible à la Buvette puis au Parvis aussi. Donc, c'est un autre élément qui nous a vraiment fait travailler en synergie. En fait, un élément que les gens qui se rendaient à la Buvette pour prendre un verre ou manger pouvaient voir aussi, puis ça faisait un lien entre nos deux projets aussi en ville.
C'est cool. Fait que ça apporte vraiment un aspect concret pour les clients. Je suis sûre que ça change l'expérience des clients là-bas, là.
Mais oui, je pense que ça change l'expérience des clients, ça change même l'expérience des gens qui travaillent sur place. Et les gens présentent la fermette, présentent les produits. Quand ils présentent la salade, ils disent d'où viennent les légumes et tout ça. Fait que ça change même pour le staff des restos, tout ça. Puis aussi pour le chef, la façon de travailler, de commander les légumes a vraiment évolué depuis qu'il travaille avec nous. En fait, ce qui est intéressant pour nous dans ce projet-là, c'est sûr qu'il y a l'aspect que c'est comme un client, si tu veux, mais privilégié. Donc, un partenaire, il va nous choisir. Tu sais, si on présente des produits qui sont intéressants, qui sont sur le menu, ils vont nous choisir, vont nous donner la priorité. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour nous, tu sais, sur le plan des ventes. Mais on a vraiment un intérêt aussi à dialoguer à propos des légumes parce que les chefs nous amènent des idées de produits, des idées de plats. Nous, en fait, on comprend qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Fait qu'on s'ajuste. On sait, oh non, telle grosseur, telle fraîcheur, telle qualité, telle quantité, tout ça. Fait que c'est vraiment stimulant aussi d'avoir ce retour-là à ce niveau-là aussi, au niveau de la qualité des légumes, puis de ce qu'on produit, comment, quand. On fait un travail de planification avec eux aussi. Fait que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là aussi.
OK. Fait que vous êtes vraiment imbriqués, en fait, ce projet-là, l'un dans l'autre, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. C'est vraiment même en amont, avant que la saison commence, on s'est rencontrés, on sait... eux, ils savent ce qu'on aimerait produire, on leur propose. Après ça, eux, ils nous donnent des idées, ils nous disent de quand à quand ils pourraient le mettre sur le menu, tout ça. Fait que nous, on s'ajuste en conséquence.
C'est vraiment une belle collaboration, là.
C'est vraiment une belle collaboration. C'est vraiment un échange qui est riche puis qui fait vraiment un lien ville-campagne, ouais. Super intéressant. Puis je pense que pour les restaurateurs, en ce moment, il y a quand même un enjeu au niveau de l'approvisionnement. Tu sais, il y a beaucoup de restaurants qui aimeraient travailler avec des petites fermes qui aimeraient travailler avec des restos. Mm-hmm. Puis nous, on trouve que la façon dont on a organisé ça, c'est vraiment concluant des deux côtés.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est un super modèle de en quoi ce genre de relation-là peut être évolutive, puis justement jusqu'à quel point est-ce que les restaurateurs peuvent même venir à changer une partie de la planification, dire leur opinion un peu, dire ce qu'ils voudraient, puis en même temps, le maraîcher, parler un peu des limitations du maraîchage, parce que, tu sais, on voudrait tous pouvoir avoir des kiwis dans le mois de janvier, mais c'est pas possible, tu sais, de regarder un petit peu la réalité de chacun, les besoins de chacun. Je pense que là, c'est là qu'on tombe dans une relation qui est vraiment gagnante sur toute la ligne.
Bien, ouais, il y a l'esprit, justement. Les deux chefs, ils ont une bonne sensibilité aussi sur la saisonnalité des aliments. Donc, ça, c'est intéressant pour nous parce que, justement, ils vont pas aller nous demander des légumes à un moment où ils savent que, normalement, c'est pas disponible. Ils vont plus chercher à travailler avec qu'est-ce qui est disponible dans le moment où c'est disponible. Nous, notre modèle est aussi basé pour avoir une offre constante de certains produits. Ça aussi, c'est intéressant pour eux, tu sais, parce qu'ils ont la salade sur le menu, par exemple, pendant toute la saison. Donc, à ce moment-là, nous, on s'assure de leur fournir aussi pendant toute la saison. Puis, on n'a pas non plus la pression de devoir absolument leur fournir. On essaie, puis souvent on réussit, mais si jamais ça ne marche pas, ils ont quand même les anciens canaux d'approvisionnement qui sont disponibles. Donc, je dirais qu'on a peut-être une petite pression de moins que des fois avec les paniers où là, ça repose beaucoup là, sur ce qu'il y a dans le champ.
Là, tu sais, on sait tous qu'il y a des légumes qui sont plus rentables que d'autres. Est-ce que ça vous arrive d'avoir à confronter ça, par exemple, là, le restaurateur aimerait bien avoir ce légume-là, mais vous autres, intimement, puis d'après vos calculs, vous savez que c'est pas très rentable. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu à confronter, à vous dire, ben nous, notre limite est là, on veut pas le faire parce qu'on sait que c'est un légume que financièrement, il est pas viable, par exemple?
OK, bien, c'est ça. La fermette, on est en modèle bio-intensif. Donc, on a une toute petite surface. En culture, on a environ un acre et demi. Puis ça, c'est le maximum là, qu'on peut aller chercher sur notre terrain. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, il y a certains légumes qui prennent beaucoup d'espace dans le jardin puis qui n'ont pas des rendements très élevés ou qui restent longtemps au jardin parce que nous, on fait aussi beaucoup de successions. Donc, c'est important d'avoir une partie des légumes que c'est des cycles courts, ben tout ça, c'est à prendre en considération dans nos choix de légumes. C'est intéressant parce que c'est vraiment une question d'équilibre, tu sais, d'équilibre entre qu'est-ce qui finalement permet vraiment la rentabilité de l'entreprise, puis qu'est-ce qu'on fait plus par plaisir pour nous ou pour les restaurateurs. Donc, on travaille là-dessus encore, mais en étant conscient qu'en démarrage, évidemment, on essaie de miser plus sur les légumes qu'on savait qui, dans notre modèle, étaient rentables, plus que justement sur des légumes comme l'artichaut, qu'on sait que c'est le fantasme, enfin le fantasme, mais c'est un légume qu'une des chefs aimerait beaucoup qu'on produise, puis qu'on trouve super intéressant, ouais. Mais...
qu'on aimerait produire aussi.
C'est ça. Puis qu'est-ce que je trouve le fun aussi, c'est que Justine puis moi, on a un bel équilibre. Tu sais, moi, je suis plus la personne qui a les chiffres en tête, qui tient vraiment, là, ce volet-là de la ferme, tandis que Justine, elle a plus une envie d'essayer, plus une créativité, puis un bon instinct aussi pour découvrir des nouveaux produits qui, finalement, des fois... Le fait de l'essayer, on s'aperçoit que, ah, mais c'est quand même intéressant, tu sais, ça peut être aussi rentable. Ouais, c'est ça, on peut être surpris. Puis ça nous permet aussi de nous démarquer par rapport à ce que toutes les fermes font. Fait que ça aussi, c'est quand même important. Je pense qu'on a quand même, dans notre identité, le désir d'aller chercher des variétés un peu moins connues, de continuer à faire de la recherche sur ça, puis à développer ça. Mais c'est ça, ça prend l'équilibre.
Ouais. C'est sûr qu'on voudrait tout fournir au restaurant, tout produire, ce qu'ils nous demandent, ce qu'ils veulent. Des fois, c'est juste, c'est pas des demandes, j'ai vraiment besoin de ça ou j'aimerais vraiment ça. Mais on le sait, là, t'sais, il y a des légumes qui les intéressent, qui cuisinent beaucoup, on le voit quand on va manger, quand on regarde la carte.
Ils ont les yeux qui brillent, là, qui parlent de certains légumes.
Exact, l'artichaut, c'est un exemple. C'est sûr que l'artichaut, bon, ça prend beaucoup d'espace, ça prend beaucoup de temps au jardin, puis c'est pas une culture qu'on connaît ni l'une ni l'autre. Fait qu'on s'est dit... on se donne un horizon, on va faire un test, on va l'essayer. Mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas miser là-dessus dès la première année. Puis c'est vrai aussi pour d'autres légumes comme des courges. Dans notre modèle, on en fait un peu, mais pas énormément. Mais on sait qu'au resto, il y aurait vraiment une capacité d'en cuisiner énormément. Mais c'est pas nécessairement sur ces produits-là qu'on va miser, en tout cas à court terme. Même si, bon, ça fait toujours la peine de ne pas faire des légumes, mais on fait des choix quand même à ce niveau-là.
Vous parliez de choix de culture puis de succession culturelle pour des cultures qui sont courtes au champ. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un des facteurs de succès de votre projet, de votre démarrage, puis la raison pour laquelle c'est devenu quand même assez rapidement rentable?
Bien, je pense que le choix des variétés est un facteur vraiment essentiel dans le succès de notre projet, mais aussi dans la réussite du modèle bio-intensif. Parce que pour rentabiliser une petite surface, c'est sûr qu'il faut faire des choix de légumes qui sont adaptés à ta façon de produire, finalement. Fait que nous, c'est sûr qu'on se base sur plusieurs critères quand on va faire un choix de légumes ou de cultivars, mais on va regarder combien de temps il va rester en champ. Ça va être un des critères, mais il y a des légumes qui vont rester en champ, mais qu'on peut récolter sur une longue période. C'est un autre critère. Il y a des légumes aussi qui se vendent assez cher. Donc ça vient aussi... dans le fond, il y a beaucoup d'ingrédients là, qui font que la recette est bonne. Puis c'est pas un critère unique. On prend pas juste des légumes à cycle court, des légumes moins de 50 jours. Il y en a qui sont plus longs que ça, mais qui ont d'autres avantages aussi. Mais on peut dire que nous, on a misé beaucoup dans les serres chauffées, dans la serre chauffée, sur les tomates, les tomates cerises, les concombres libanais, les haricots. C'est des légumes qu'on sait, c'est des favoris au marché, au resto. Puis c'est des légumes aussi qui nous permettent d'être un bon revenu aussi.
On vous revient tout de suite après la pause. Vous munir d'outils de qualité vous garantit qu'ils vont durer longtemps et que vous pourrez accomplir vos tâches sans vous tracasser. Les sécateurs Felco en sont un bon exemple. Ils sont durables et ont des pièces qui peuvent être remplacées au besoin. Ces outils de coupe vous suivront pendant de longues années. Trouvez un choix incomparable de sécateurs Felco chez Dubois Agri-Innovation, le partenaire principal de la vie maraîchère. Visitez le www.duboisag.com, www.duboisag.com et profitez de la livraison gratuite sur vos commandes de 200$ ou plus en ligne. Si on va ailleurs un peu, j'aimerais ça savoir de façon générale, là, peut-être que, je sais pas si vous commencez à sentir que vous avez un petit peu de recul par rapport au démarrage, mais ça a été quoi vos principaux défis, mais aussi vos principaux outils là, que vous aviez pendant cette période-là qui est quand même cruciale?
Nous, notre principal défi qu'on a eu à affronter, c'est vraiment l'échéancier qu'on s'est imposé. Si on veut, on avait un momentum, on était prêts à partir. On avait envie de partir rapidement, puis donc on a eu accès à la terre à l'automne 2017, puis on voulait vendre nos premiers légumes en juin 2018. Donc ça nous laissait très peu de temps pour tout mettre en place, puis c'est ça. Donc il fallait tout faire, puis c'était stressant.
Qu'est-ce qui vous a placé dans une position de rush comme ça?
C'est quand même nous-mêmes qui se sont placés dans une position de rush parce que justement, on sentait qu'on était prêts à démarrer. On n'avait pas nécessairement envie d'aller faire une autre année sur une ferme en tant qu'ouvrier agricole. On avait le goût d'avoir notre projet. Puis on avait le goût, les restaurants étaient prêts, on était prêtes, on avait un terrain, on avait le goût, là, on avait vraiment le goût de partir, puis de pouvoir faire ce qu'on aime, de pouvoir comme démarrer notre projet, puis de pouvoir essayer de tirer un minimum de revenus de ce projet-là pour passer à travers l'année. Donc c'était quand même nous qui nous sommes imposé cet échéancier-là. C'est ça. Okay.
Mais avec un petit peu de recul comme ça, là, je pense que le sentiment d'urgence chez les gens qui sont en pré-démarrage est quand même assez courant. Est-ce que vous diriez que c'est une bonne ou une mauvaise chose, finalement, ce sentiment d'urgence-là?
Bien, c'est sûr que le sentiment d'urgence, je pense qu'on l'a, mais on peut aussi se donner une chance. Il y a beaucoup de maraîchers ou de gens qui vont démarrer, qui vont se donner une année zéro. Ça veut dire qu'ils vont travailler la terre, observer la situation du drainage, trouver des solutions, faire de la construction, des aménagements avant de commencer la première année de la production. Nous, je dirais que c'est ce qu'on n'a pas fait. On savait qu'on le faisait pas, donc on savait qu'on s'attendait à des défis majeurs. Fait que pour pouvoir rentrer dans notre champ dès le printemps, quand il n'y avait aucune planche de fête, on savait que ce serait quand même... Olé, olé. On avait un calendrier qui était bien établi. On savait à quelle date on devait semer nos premières choses en champ, nos premiers transplants qui étaient prêts à y aller. Mais on avait une date, mais il n'y avait rien d'assuré, là. Nous, on a eu un printemps très, très mouillé, ce printemps-là, en l'occurrence. Puis on a eu de la misère à rentrer dans le champ au moment où on voulait, fait qu'on commençait à être très stressé. Mais finalement, tu sais, c'est ça, avec l'adrénaline, le rush qui te pousse à y aller, ben, on a fini par réussir en respectant notre calendrier, ce qui était quand même un tour de force là, à ce moment-là, mais je dirais que c'est un des éléments qui nous a le plus rushé, c'était de respecter notre calendrier avec l'état des lieux qui avait rien de préparé. Là. C'était pas, on lève pas une tarpe puis il y a des belles planches de préparer en dessous. Là. Tout était à faire.
Puis ça devient aussi, je trouve, un certain défi mental parce qu'on regarde par la fenêtre, on regarde, mettons, une journée pluvieuse d'avril où là, on aimerait juste être comme capable de rentrer dans le champ puis de commencer à travailler. On a l'énergie pour, mais on peut pas, on se sent comme arrêté, si on veut, par la situation. Puis là, il y a une grosse trace de labour, puis on sait que dans une trentaine de jours, on est supposé avoir nos premiers légumes selon notre calendrier, puis à un certain point, il y a comme une brèche qui se fait, là. Wow, est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va finir par avoir des légumes, tu sais? Genre, c'est comme si ça devient plus un combat mental de garder le moral puis de garder cette énergie-là pour justement, quand c'est prêt, quand on est capable d'y aller, ben là, on y va, puis on prend action, tu sais. Fait que c'est juste de faire attention. Ben, je trouve que des fois, même justement dans des printemps plus tardifs, tout ça, il y a cette espèce d'énergie-là qui commence à monter. Puis là, on se sent comme retenu, puis c'est difficile, mais ça devient vraiment plus, je trouve, un défi psychologique qu'autre chose, tu sais. Mm-hmm. C'est de garder le moral, c'est de se dire que ça finit toujours par arriver, puis qu'on finit toujours par rattraper aussi le temps, tu sais, les délais qu'il y a, par exemple, ou des trucs comme ça.
Fait qu'on travaille beaucoup sur sa confiance, là, au début, là.
Ben, il y a une grosse partie que oui, tu sais, c'est travailler sur la confiance, travailler justement par rapport à toutes les insécurités, les incertitudes qu'on a en maraîchage, on contrôle. Il y a une partie qu'on contrôle pas puis qu'on contrôlera jamais. Tu sais, on travaille dans la nature, on travaille avec le climat, on travaille avec les insectes, on travaille. Tu sais, tu peux pas être plus proche de la terre que ça quand t'es agriculteur. Donc, pour moi, c'est comme de dire, ben, ça me fait travailler mon laisser-aller parce que une tempête de vent, je peux essayer de planifier pour que ma ferme résiste le plus possible à la tempête de vent, mais il y a une partie de moi qui, tu sais, je veux dire, qu'il faut juste qu'on laisse aller, qu'on peut rien faire de plus, tu sais, c'est plus fort que nous, je sais pas si...
Ouais, c'est comme si, au bout du compte, on est vraiment juste des petits humains, puis tout ça, c'est plus fort que nous, on essaie de faire avec les composantes sur lesquelles on a aucune ouais. Pouvoir d'action.
On n'a pas de pouvoir d'action de ça, puis en même temps, je trouve que les agriculteurs, on est vraiment au front de cette situation-là. C'est pour ça que souvent, par exemple, on pense aux grands enjeux de changement climatique et agriculture, ben c'est présent parce que nous, on est tous les jours dehors à devoir composer avec ces éléments-là, tu sais, les éléments du climat, les éléments de la météo, des nouveaux insectes, alors je trouve que c'est ça, on est vraiment au front. Puis ça oblige à un certain laisser-aller parce qu'à un certain point, on ne peut pas tout contrôler.
Fait que oui, vous aviez des incertitudes, mais vous aviez aussi certaines formes d'assurance ou de certitude par rapport à votre mise en marché, tout ce qui est sorti de la ferme. Vous aviez comme un calendrier d'entendu avec quelqu'un, avec vos collaborateurs pour la sortie des légumes. Donc, c'était vraiment plus l'aspect production qui était un enjeu.
Oui, c'est ça. Je pense que nous, le défi majeur, c'était de réussir la production, de produire assez, de finalement réussir à faire pousser des légumes dans ce terrain-là qu'on connaissait pas, qu'on n'avait pas préparé. Puis je pense que le problème se pose autrement pour beaucoup d'agriculteurs où souvent, c'est pas tant de produire des légumes, mais de les vendre, de trouver les bons canaux de distribution qui est l'enjeu principal.
Souvent, c'est le contraire, oui.
Exactement. Fait que c'est ça. Nous, je dirais qu'on a inversé un petit peu le problème là, à notre première année. Pas que la mise en marché, c'était tout réglé, mais tu sais, on a développé des nouveaux canaux de distribution de nos légumes. On a quand même poursuivi un marché qui était quand même un marché qui en évolution et tout ça. Donc, c'est pas gagné d'avance, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que, par exemple, si tu démarres une ferme puis tu veux te lancer dans les paniers, mais il faut que tu trouves tous tes abonnés la première année. Si tu veux démarcher, je sais pas moi, une ville pour faire un nouveau marché, ben tu pars de zéro. Nous, c'était pas exactement le cas. Donc, c'est ça. Les défis se situaient plus du côté de la production puis de l'installation à faire en même temps.
Mm-hmm. Par rapport aux installations à faire, je crois que vous avez eu le montage épique d'une serre en plein hiver. Est-ce que tu peux nous amener un petit peu avec toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait dans vos têtes? De quelle façon ça s'est déroulé?
Ben oui, je dirais en fait qu'on a fait l'expérience de quelque chose à peut-être pas reproduire quand on peut le planifier autrement. Mais oui, on a monté une serre assez imposante là, de 35 pieds par 100 pieds en hiver. Donc on est parti, je pense qu'elle a été livrée en janvier. On avait fait l'installation des ancrages de la serre juste avant les gels, un peu plus tôt en décembre. Mais donc on a attendu jusqu'en janvier pour commencer le montage, puis on a réussi à mettre les plastiques en mars. Entre deux bourrasques de vent, là, littéralement, avec des amis qui couchaient à la maison puis qui attendaient qu'on soit, dans le fond, qu'il y ait un bon timing, là. Mais ouais, c'est ça. Ça a été toute une aventure. Tellement plus difficile de travailler dans le froid, de faire quelque chose pour la première fois que tu connais pas aussi. Travailler avec des gants, échapper des boulons dans la neige, là, ça a été vraiment comme l'histoire de notre hiver pendant plusieurs semaines. Puis c'est ça. Ça a été quand même une aventure, disons, pleine de stress et de péripéties. C'est aussi une serre où il a fallu installer des équipements, installer le système d'irrigation à un moment de la saison. Finalement, c'était quand même pas très évident de le faire, là, fait que ça a été pas de tout repos, disons. Mais c'est ça, juste pour conclure sur l'histoire de la serre, finalement, même si ça a été plus long, qu'on s'est imposé un défi supplémentaire en la construisant en hiver, si on voulait partir avec une serre dès notre première saison, on n'avait pas non plus vraiment le choix de faire ou de pas le faire. Donc, on l'a construite, mais une fois la saison bien démarrée, on était tellement contents d'avoir cet espace-là de production qui est un espace finalement qui nous a permis de vraiment sortir une grande quantité de tomates, concombres, etc. Puis vraiment, là, notre démarrage aurait été très différent si on n'avait pas eu accès à cette structure-là là, de serre finalement qui est un investissement qui en vaut vraiment la peine.
Fait qu'on voit qu'il y avait comme une espèce d'empressement là, dès le départ pour rentabiliser, pour se dépêcher à avoir un salaire de ça. Vous avez nommé tantôt que vous vouliez comme éviter un peu à tout prix d'avoir à retravailler à l'extérieur pour avoir un revenu. Là. Je peux te savoir, c'est quoi l'objectif que vous êtes donné par rapport à ça, dans le sens, OK, vous démarrez, mais la première année, vouliez-vous rentrer dans vos charges, la deuxième année, avoir un salaire? Ça ressemble à quoi le délai que vous vous êtes donné pour avoir un salaire, par exemple? Ou pour être tout simplement rentré dans vos charges?
La première année, dans le fond, notre objectif, c'était... ben oui, c'était quand même d'avoir une certaine rentabilité, mais en sachant qu'on ne pourrait jamais se payer toutes les heures qu'on allait travailler. Justine aussi était sur une subvention salariale qui a beaucoup aidé au démarrage de l'entreprise, qui est vraiment une belle mesure pour l'entrepreneuriat, le soutien aux travailleurs autonomes. Donc ça l'a beaucoup aidé aussi parce qu'on avait au moins un des deux salaires de garantie. Puis moi, j'étais plus l'électron libre qui, si jamais la ferme ne démarrait pas comme prévu, ben là, j'allais quand même peut-être essayer d'aller chercher un revenu à l'extérieur, mais que si on arrivait à atteindre nos objectifs, ben à ce moment-là, là, je pourrais me tirer un minimum de salaire pour entrer dans nos charges qu'on avait besoin là, pour la maison, pour tout ça.
Fait que vous aviez un objectif salarial initial, dès le départ, à vous dire, OK, l'année 1, on veut quand même une partie du salaire d'une des deux.
Oui, on avait un objectif salarial dès l'année 1, en sachant, comme je disais, par exemple, si la serre n'avait pas marché, je pense qu'on ne serait pas arrivé à tirer un des salaires. Donc, à ce moment-là, il aurait peut-être fallu aller chercher de l'argent à l'extérieur aussi. T'sais, on savait qu'on serait peut-être obligé d'aller compléter à l'extérieur, mais on avait décidé de mettre quand même la barre un peu plus haute puis de se dire qu'on voulait essayer d'être capable d'aller chercher un des deux salaires dès l'année 1.
Là, les filles, avant de se quitter, j'aimerais ça savoir dans 10 ans, on va dire, dans un avenir proche, où est-ce que vous voyez? C'est quoi... Qu'est-ce que ça représente la fermette pour vous dans vos rêves les plus fous?
Ben, je pense que c'est une question à développement, fait qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Non, mais c'est une bonne question parce qu'on dirait que les deux premières années, en tout cas, moi, j'ai. C'est ça, on se questionne sur est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va réussir, est-ce que tout ça, puis est-ce qu'on va réussir à se tirer un salaire. C'est ça les préoccupations des premières années, je pense. Puis maintenant, moi, on dirait que je trouve déjà le focus il commence à changer. Est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce que le niveau d'énergie que ça nous demande, c'est souhaitable ou viable pour plusieurs années à venir? Il y a plein de questions comme ça qui commencent à se poser différemment, je trouve, dès que tu as passé même le cap du démarrage. Puis nous, c'est sûr qu'on a fait un plan sur 5 ans, puis on a déjà comme un peu de visualisation ou de prospective, ou je sais pas comment l'appeler, là, qu'on a fait quand tu fais un plan d'affaires aussi. Tu planifies pas sur 2 ans, mais sur plus longtemps. Mais quand même, tu sais, c'est des questions comme un peu de pérennité ou de viabilité, puis après ça, qui inclut plus tes propres besoins comme individu, où tu te vois toi-même dans 10 ans, qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie. Fait que c'est plus ces questions-là, moi, je trouve, qui commencent à prendre plus de place dès une troisième année, finalement. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que il faut y penser plus tôt que plus tard. Mais où je me vois, je dirais que c'est un peu difficile d'y répondre. On dirait que 10 ans, c'est très loin aussi, même sur le plan écologique dans 10 ans. Qu'est-ce que... Enfin, bref, mais moi, j'aimerais faire ce que je fais. J'aimerais ça continuer à être dans le jardin une bonne partie de la saison, comme continuer à travailler physiquement, dehors, tout ça, mais j'aimerais ça que ce soit de façon équilibrée, donc avoir un bon niveau d'énergie, puis avoir de la place pour faire autre chose aussi, par exemple, avoir du temps accordé aux autres, à la famille, tout ça, peut-être dans une meilleure proportion, même en saison.
Tu parlais de pérennité personnelle en termes d'énergie, mais... T'sais, c'est sûr, là, t'as nommé l'écologie globale de la planète. On sait tous qu'il y a un certain état d'urgence, là. Est-ce que c'est une préoccupation pour toi? Est-ce que tu te dis, OK, dans 10 ans, on va vraiment... ça va être un défi quotidien, comme... De ce que t'as comme renseignement actuel de toi?
Mais c'est sûr que c'est difficile à prévoir. Je pense que... Ben, si on fait juste écouter le consensus scientifique, c'est sûr qu'il y a des changements qui s'en viennent majeurs. Moi, je pense, comme Annie l'a dit un peu plus tôt, les agriculteurs sont au premier plan pour observer, puis aussi assumer ces changements-là, parce qu'on travaille avec le vivant, les conditions météorologiques, puis tout ça. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'on va avoir plus d'épisodes beaucoup plus difficile à contrôler sur le plan météorologique. Moi, c'est une question c'est dans ma tête tous les jours, depuis même la première saison où on a commencé. Mais j'ai vraiment de la misère à le visualiser là, dans le temps. Mais c'est sûr que c'est une source d'inquiétude, je dirais ça, au minimum, pour le type de travail qu'on fait.
Toi, Annie-Claude, est-ce que c'est une préoccupation que tu dirais quotidienne?
Oui, l'environnement, c'est vraiment une grosse préoccupation. Puis je pense qu'on parlait dès le début un peu de nos motivations à aller en agriculture. C'est sûr que la notion de l'écologie était très, très, très présente. T'sais, finalement, on se disait que le système agricole actuel avait pas de bon sens au niveau de l'énergie qui s'en consomme, des intrants, des produits chimiques, tout ça. Donc, il y avait tellement cette notion-là présente à la base de notre volonté de se lancer en agriculture que ce l'est encore. Mais oui, le constat de la crise écologique est très présent. Puis on a le goût justement d'agir comme des acteurs positifs là-dedans. Donc ça nous emmène aussi à toujours questionner notre modèle, à questionner qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la santé de nos sols, par exemple. Donc ça, c'est des questions qui sont très présentes, mais qui des fois, à un certain point, quand on se lance en entreprise, c'est pas nécessairement les premières questions qu'on peut nécessairement affronter. On peut pas tout changer d'un coup, tu sais. Si on veut continuer à faire ce qu'on fait, il faut aussi être viable économiquement, puis viable, comme Justine disait, au niveau aussi de notre santé physique et mentale. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, bref, c'est comme si ça fait clairement partie de nos préoccupations à actuelles, mais aussi dans l'action, on aimerait ça juste continuer à s'améliorer dans ce sens-là pour participer au changement global là, pour ça, mais c'est tellement gros, tu sais.
Ouais, non, c'est beaucoup plus grand que nous. Mais étant donné que vous avez un modèle bio-intensif à ce jour, est-ce que vous voyez des limites à ce système-là, à cette façon de fonctionner-là au niveau justement plus écologique?
Bien, un côté que je trouve vraiment positif de notre modèle, c'est qu'on produit intensivement sur une petite surface. Donc ça permet finalement d'avoir un modèle rentable, intéressant, avec une grosse production de légumes sur un tout petit espace et donc de laisser beaucoup de place à la nature autour où on ne touche pas, où c'est boisé, où c'est en prairie. Donc ça, je trouve que c'est comme vraiment intéressant du modèle, c'est que c'est intensif, c'est pas extensif dans l'espace. En contrepartie, c'est sûr qu'il faut qu'on nourrisse notre sol. Donc à ce moment-là, on n'a pas le choix d'aller chercher un peu la nourriture à l'extérieur, donc d'acheter du compost, même d'acheter de la paille, tu sais, d'acheter tout finalement ton amendement vient souvent de l'extérieur. Tu sais, on peut faire un peu des engrais verts, mais ça reste très difficile là, d'en faire beaucoup parce que chaque espace qui peut être utilisé dans la saison, c'est de l'espace en moins qui nous permet finalement de rentabiliser le projet. Donc, il y a toujours cette espèce de question-là où on utilise pas mal tout l'espace qui est disponible pour cultiver. Donc, ça rend ça plus difficile pour les autres activités là, qui permettraient un peu plus de boucler la boucle au niveau de l'amendement du sol.
Mais tu posais aussi la question tout à l'heure, vous la voyez où la fermette dans 10 ans, mais je pense que toutes ces préoccupations-là, puis l'envie de créer vraiment comme un lieu où il y a comme un lieu écologique, un lieu où il y a comme une belle place qui est faite à la biodiversité, un jardin aussi qui, entre guillemets, et efficace, qui prend peu d'espace puis qui laisse la place à la nature, justement, aux autres écosystèmes sur ce qui reste du terrain, c'est une chose importante. Mais nous, c'est aussi un horizon vers lequel on veut tendre, tu sais. On veut implanter des espèces, on veut créer des brise-vents, on a le plan de faire un pré fleuri, de vraiment comme rendre les espaces le plus possible attrayants, créer de l'habitat pour une biodiversité. Fait que c'est aussi comme ce qu'on voit, nous, pour vraiment prendre soin de ce petit, finalement, lopin de terre, en fait, qu'on a, dont on peut s'occuper. C'est vraiment aussi quelque chose qui nous donne vraiment comme un horizon dans le temps à enrichir, disons.
Puis aussi, on s'aperçoit, tu sais, on revient d'aller visiter des amis en France qui ont des fermes aussi, puis on s'aperçoit que le mouvement aussi du non-travail du sol, qui est comme intéressant mais mystérieux à la fois. En tout cas, il y a comme beaucoup d'innovations au niveau de la santé des sols, la vie du sol, tu sais, il y a cette préoccupation-là, je trouve, qui prend de plus en plus de place. Puis c'est sûr que ça nous inspire, tu sais, évidemment, parce que c'est comme je disais, c'est toujours dans l'esprit là, de dire, ben comment est-ce qu'on peut améliorer l'écologie de notre ferme. T'sais, il y a comme cette préoccupation-là qui est aussi présente là, dans le modèle.
Fait qu'une des réflexions intéressantes à avoir quand on est bio-intensif, ce serait comment intégrer davantage les engrais verts.
Oui, comment nourrir le sol, comment ajouter de la matière organique. En fait, c'est quoi les stratégies pour le faire? Nous, on disait qu'on pourrait pailler plus de culture, finalement, plutôt que d'utiliser des fois des pailles plastiques ou de rien mettre, tout ça, de couvrir le sol en permanence de cette façon-là. Aussi de travailler de plus en plus sur des engrais verts. C'est possible de l'intégrer dans la culture. T'sais, je dirais qu'à la fois, c'est pas si évident dans le modèle bio-intensif de faire tout ça, parce que l'espace est limité, mais d'un autre côté, je trouve qu'il présente des opportunités intéressantes pour s'intéresser au sol, le modèle, parce que c'est des petites surfaces, il y a déjà pas beaucoup de travail du sol, on est tout en planche permanente, on travaille avec, tu sais, on peut ajouter du BRF dans les allées, de la paille, tout ça, tu sais, il y a quelques stratégies qui sont déjà comme possibles à mettre en place puis qui peuvent apporter, vraiment faire une différence aussi, là.
Mm-hmm. Fait que c'est un modèle qui a ses avantages et inconvénients comme tous les modèles. Là.
Comme tous les modèles, mais c'est sûr que je dirais qu'au niveau du sol, il y a quand même, les planches permanentes présentent un atout déjà dès le départ, tu sais. C'est de dire, oh oui, on travaille le sol une fois dans le meilleur des mondes, puis c'est fait, tu sais.
Mm-hmm. Ouais. Puis la succession culturelle, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui en demande peut-être trop au sol?
Souvent, pour faire une succession, c'est quand même des légumes qui sont pas trop exigeants, donc... Tu sais, à savoir, est-ce que ça demande plus que, par exemple, un légume exigeant qui reste toute la saison sur une même planche? C'est une bonne question qui se pose. On demandera ça à Anne-Belle.
C'est aussi un domaine où on peut avoir des opinions, mais...
C'est bon d'avoir des chiffres.
Ben oui, c'est ça, c'est qu'on pourrait bien dire, moi, j'ai le feeling que, mais en fait, la réponse, c'est pas ça. C'est un champ qui est ouvert à la recherche, puis on attend avec impatients des résultats, des travaux qui se font sur la vie du sol, sur des recherches qui vont prendre en compte le modèle qu'on utilise aussi pour avoir des meilleures pratiques aussi. C'est sûr qu'on sait déjà, il y a des grandes orientations, on sait ce qu'on peut faire pour améliorer, on fait déjà des choses pour, disons, préserver le sol. Mais c'est sûr qu'après ça, il faut se baser sur des chiffres, il faut travailler avec des agronomes aussi. T'sais, quand on vient parler, ben, en tout cas, de fertilité puis de besoin des cultures, là. Mm-hmm.
Bon, donc, à ce que je vois, vous êtes assez ouverte à toute forme d'amélioration.
Oui, c'est comme une... C'est aussi ce qui est le fun en agriculture, je pense, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, puis on n'a jamais fini de s'améliorer, on n'a jamais fini d'embellir un paysage aussi, puis de l'améliorer.
On sait que notre modèle marche, donc c'est comme d'y aller graduellement aussi. Tu sais, ouais. Si à faire des changements, ben c'est de pas dire on transforme de tout au tout du jour au lendemain, tu sais. C'est un certain paradigme aussi, le bio-intensif. Tu sais, on peut pas dire... tout d'un coup, je fais du bio-intensif, mais je veux que ma moitié du terrain soit en engrais vert. Mais là, il faut que tu réfléchisses, OK, j'ai pas de tracteur pour les engrais verts, tu sais, j'ai pas... si je perds la moitié de mon terrain, je perds la moitié de mes revenus. Tu sais, il y a comme toute une logique derrière ça, donc c'est juste vraiment important de garder dans l'esprit que c'est ça, c'est un modèle, puis qu'après ça, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, puis d'y aller aussi vraiment graduellement avec des planches tests quand on veut introduire des nouvelles choses, parce que c'est une saison, si ça part mal ou si une culture importante marche pas, ben la saison est longue, tu sais.
J'aimerais ça vous remercier pour le brassage d'idées qu'on a eu aujourd'hui. Merci pour la rétrospective, pour vos opinions, pour votre expérience personnelle. Puis, c'est ça. Merci à vous pour votre présence.
Et merci beaucoup pour l'invitation.
Merci. À la prochaine. Au revoir.
À la prochaine.
C'est tout pour l'épisode du mois de septembre. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je crois que je vais vous garder une petite surprise en ce qui concerne le contenu du mois d'octobre. Alors, bonne fête d'été à vous. Bye! À dans un mois!